מוריי ורבותיי, pour conclure cette série de shiurim qui ont été spécialement enregistrés avant Tisha B'Av, pour être diffusés le jour de Tisha B'Av, afin d'aider tous nos co-religionnaires sur le jour de jeûne, pour pouvoir étudier les lois relatives, les faits historiques, et quelques paroles de morale juive importantes de se rappeler en ce jour, de se remémorer en ce jour et d'étudier en ce jour. On va aborder un dernier point. Dernier point, qui est extrêmement important. De quoi nous prive l'absence du temple aujourd'hui? On a bien compris. Dans le Beth Amikdash, on pouvait faire des corbanotes. Des corbanotes qui pouvaient nous permettre le pardon de nos fautes. On rapporte dans la Gemara, en plusieurs endroits, Maseret Brachot, Maseret Megillah, Abraham Avinu, on nous rapporte là-bas que à Abraham Avinu, il a été dit qu'après la destruction du premier et deuxième temple, il sera donné à travers les sages d'Israël un ordre de certains textes de prière à dire qui viendront remplacer les corbanotes. Des textes qui vont être choisis dans le Tanakh, dans la Torah, dans les livres des prophètes et dans les Agamas, principalement dans les psaumes de David. Livre du psalmiste David Abner. Pourquoi ? On voit qu'en réalité, à Tisha B'Av, lorsqu'on vient pleurer la dissolution du premier et du deuxième temple, on vient pleurer un manque spirituel énorme au sein du clan Israël. Effectivement, dans le Beth Amikdash, on faisait des corbanotes. Ces corbanotes-là nous venaient nous faire pardonner nos fautes. Mais on voit, comme je l'ai déjà dit, dans le Talmud, aujourd'hui il y a des prières pour remplacer les corbanotes. Où il manque ? Où il manque ? On dit qu'il y avait différents éléments. Une des différences entre le premier et le deuxième temple, dans le premier temple, vous pouvez assister et voir la présence divine, dans le deuxième temps, on ne peut pas voir réellement la présence divine. Elle était cachée, déjà. Ou du moins, on ne pouvait pas la ressentir comme dans le premier temps. Mais on voit, plus loin que ça, le fait de devoir se déplacer jusqu'à Yerushalayim, le fait de pouvoir faire des corbanotes au sein du Beth Amikdash, en faisant ces corbanotes-là, il y a une élévation spirituelle beaucoup plus importante qu'au moment de la prière. Toutes les élévations spirituelles qu'on a aujourd'hui au moment de la prière viennent remplacer, mais à un moindre niveau, les sacrifices qu'on faisait dans le temple. Ça allait beaucoup plus loin que ça. Chachamim nous rapporte, qu'est-ce que je pleure à Tisha B'Av? Je pleure quoi? La destruction de deux temples qui ont été détruits? C'est quoi? C'est de la pierre? C'est du bois qui a été détruit? C'est ça que je suis en train de pleurer? Construction architecturale. D'accord, c'est un endroit saint. On dit non, c'est pas ça. Le thème Chorban, destruction, en hébreu, si je l'écris avec Cholam Haser, c'est-à-dire sans vav après le chet, d'accord, le thème Chorban aura pour Gematria sans vav 260. On nous rapporte que le monde a été créé à travers différentes sphères. Chaque sphère porte le nom d'une qualité divine, d'une façon qu'a le divin de s'exprimer dans le monde, dans ce monde. La royauté, la miséricorde, la rigueur, et j'en passe. Non, on voit que ces sphères-là, en réalité, c'est l'unité première à travers laquelle Dieu va créer tout l'univers. C'est l'unité minimale qu'il faudra, qu'en réalité, le monde est imbriqué en des milliards et des milliards et des milliards d'ensembles de sphères à l'infini. Tant dans le plan spirituel que dans le plan matériel. Il est rapporté dans le Zohar, Sefer Vayikra, par Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce monde, c'est un ensemble de petites sphères, de petits ronds qui tournent les uns autour des autres, qui se complètent les uns autour des autres, qui ont formé les atomes, les molécules, avec les protons, les neutrons, etc. Alors, moi, je ne suis pas un très grand fan de science. Il nous rapporte qu'il y a des champs d'énergie électrique dans le Zohar, tel que, qui fait que toutes ces sphères vont s'imbriquer les unes avec les autres et se compléter et former la matière. On rappellera que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, avant toutes les grandes découvertes de la science. On dit, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? Il y a l'énergie qui est dans la matière. C'est l'expression de la présence divine à travers le matériel. Une énergie qu'on peut arriver peut-être à visualiser, mais pas à comprendre, pas à saisir. C'est l'expression du divin en ce moment qui fait que la matière prend vie. Tiens, qu'un homme puisse prendre la parole, qu'il puisse bouger son doigt, qu'il puisse s'exprimer. À l'époque du premier et du deuxième temple, on voit qu'un des grands yetzaras de la génération, c'était l'idolâtrie. On voit qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas du tout tentés d'aller se prosterner devant un arbre, devant une pierre, et on va prêter cela à l'évolution et aux nouvelles technologies et au développement de l'humanité et à la culture générale qui ne cesse de s'agrandir et à la richesse du savoir humain qui s'est accumulé à travers les générations. Très bien. Mais nos historiens, quand ils vont remonter jusqu'à l'ère sumérienne, dans l'histoire qui a précédé, entre guillemets, l'ère biblique, qui correspond à l'époque biblique, à l'époque d'Abraham Avinu. Les historiens se trompent un peu au niveau de leur date. Selon les dates bibliques, non. On va s'arranger. Quand Machiav viendra, il dévoilera toute la vérité, il mettra d'accord tout le monde. Qui rapporte là-bas que les Sumériens, ils avaient développé une technologie, une façon de développer l'agriculture à l'époque dans leur région en Mésopotamie de façon miraculeuse. Qu'ils avaient développé une technologie et un savoir qui était incroyable pour l'époque. Donc comment on peut venir penser que des gens, il y a milliers d'années de cela, qui ont réussi à développer des technologies et à dompter les forces de la nature pour arriver à vivre et à évoluer dans des zones arides où il était extrêmement difficile de vivre, comment on peut venir penser que ces hommes-là étaient tous idolâtres alors qu'ils étaient capables de développer des technologies? C'est plus des idiots. Rapporté dans la Gemara, en réalité, qu'à l'époque, la présence divine, elle pouvait être perçue par tous les hommes. Du fait qu'il y ait le Beth Amikdash. Du fait qu'il y ait le Beth Amikdash, on arrivait à voir la présence divine dans un arbre, dans une branche, dans une pierre. Ce qui tentait les hommes de vouloir servir le divin présent dans un animal, un arbre, une branche, une pierre, un homme. Ainsi, des hommes se sont pris pour des demi-dieux. Parce qu'on voyait leur neshama, on voyait la kedusha qui sortait d'eux. On arrivait à le percevoir. Raison pour laquelle aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses, on n'arrive plus à le percevoir de façon frappante, fulgurante. Pour quelle raison? Pour pas qu'on vienne à idolâtrer un homme, un objet, une statue. Pour quelle raison cela était possible? Parce qu'il y avait un véritable lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ce qu'on va appeler après Matan Torah, ce que Dieu a qualifié de Tira, de Tartonie. Une demeure dans les mondes inférieurs. C'est la conversation avec le tabernacle, où Dieu va envoyer une présence divine qui n'est pas Dieu. C'est une expression du divin dans ce monde, qui est perceptible pour nous. Qui est rapporté dans la Sécrouline, que même les anges ne peuvent percevoir que la Shrina, la présence divine, qui est l'expression du divin dans ce monde. Mais lorsqu'ils sont venus, on demandait à Dieu réellement de se dévoiler à eux, par l'ensemble de sa Kedusha, il leur a dit, écoutez, il y a un écran entre vous et moi. Si j'enlève cet écran-là, même vous les anges qui êtes immortels, viendrait être détruit. Il se posait à te servir, nous sommes saints, on n'a pas dit de Sarara, tu nous as créé sans mauvais ton change, t'en supplie, dévoile-toi. Dieu que Akadosh Baruch Hu aurait dévoilé une partie totale et globale de sa présence, de sa sainteté, qui correspondrait par rapport au corps humain à un petit doigt. Tout petit doigt. Ce petit doigt-là a causé la destruction de tous les anges. Dieu les a recréés. Alors, tu vois, vous voyez, c'est pour ça. Ma sainteté, ma grandeur est imperceptible pour l'ensemble de la création. Telle est la volonté divine. La volonté divine et cette sainteté divine ne pourra être perçue dans sa globalité comme jamais auparavant par aucun prophète en Israël qu'au moment de la reconstruction du troisième temple et de la Géoula finale. Et que ce qu'on a connu au premier et deuxième temple, c'est un dévoilement du divin qui n'était que chelki, qui n'était que partiel. Mais que ce dévoilement divin qui existait au moment du premier et deuxième temple faisait que les hommes arrivaient à percevoir le divin dans tout. Dans tout. Ribono Shalolam. Aujourd'hui, le divin n'arrive pas à le percevoir. Ce qui veut dire qu'un homme, lorsqu'il mettait ses téphilines, il voyait l'énergie qui se dégageait des téphilines. Il voyait l'énergie qui se dégageait d'une mitzvah. Lorsqu'il mettait la tzedaka, il voyait le malheur qu'il créait. Il voyait la kedusha de ses maasines, de ses mitzvot. Il se posait même pas la question à quoi servaient les mitzvot. Il arrivait très bien à comprendre ce que les mitzvot lui rapportaient. On dit qu'à travers les 10 sphères, qui sont l'unité minimale, aussi bien dans le spirituel que le matériel, dont Dieu se sert pour faire tenir le monde, il y a dans chaque sphère la présence divine sous le nom de Dieu qui exprime l'action divine qui a le contrôle de tout dans ce monde, dans le passé, dans le présent, le futur. Le Shem Havaya, Yudke Vavke. Valeur numérique 26. Si je prends cette valeur numérique et que je la multiplie dans l'unité minimale qui est de 10 sphères, 26 x 10, 260. Lorsque je viens, je pleure le Chorban du Bet Amikdash à Yerushalayim pour le premier et le deuxième temple. Je pleure le lien que nous avions avec Yudke Vavke, avec le divin, avec la présence divine, avec l'expression divine, qu'on arrivait à percevoir à travers chaque étude de Torah, à travers chaque parole de Torah, à travers chaque prière que l'on priait. On arrivait à voir nos prières s'élever au ciel, être acceptées par les anges. On arrivait à voir les mitzvot. Est-ce qu'elles engendraient dans les mondes supérieurs? Est-ce qu'elles engendraient au niveau de Neshama? On arrivait à voir notre Neshama grandir. On arrivait à voir tout ça. Aujourd'hui, on ne voit rien de tout ça. Aujourd'hui, quand on met une finance du projet mieux, pour certains d'entre vous, quand on mange quelque chose, on dit pour quelle raison? Les mitzvot, expliquez-moi. Toute l'énergie qu'on va reconnaître dans les arts martiaux, l'équilibre entre les forces, très facilement, dans le yoga, le karaté, etc. D'un seul coup, dès qu'on arrive au judaïsme, on arrive au Torah, Mitzvot, on se dit, attends, est-ce que les Mitzvot pourraient insuffler un équilibre dans ce monde à travers les différentes forces que Dieu a créées? Je ne pose même pas la question. Quand on va aller apprendre à faire des karatékides, entre guillemets, alors là, oui, allez, la respiration, les exercices, contrôler la force, l'équilibre entre les forces. Mais là, on est dans le matériel, c'est pas dans le spirituel. La Torah, c'est aussi bien l'équilibre des forces dans le spirituel que dans le matériel. Et tout ça, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. Rachamim nous disent, quand tu pleures la destruction du Beth Amikdash, du premier et deuxième temple, tu pleures le fait qu'il n'y ait plus de lien, qu'il n'y ait plus de pont entre nous et les mondes supérieurs. Qu'il y a un écran entre nous et les mondes supérieurs. Qu'on ait du mal à percevoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Qu'on ait du mal à comprendre et à percevoir ce que nos actions, nos mitzvot engendrent dans ce monde. Pour nous permettre de nous éloigner du mal et de s'agarder dans le chemin de la Torah, de se préserver au sein du chemin de la Torah pour nous et nos descendants, et de se préserver des fautes. Et à quoi est dit cela? Justement, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'ils avaient ce lien, lorsqu'ils arrivaient à percevoir tout ça, Israël s'est réuni en fauté. Et à l'époque du premier temple, à l'époque du deuxième temple. Par des fautes graves. Premier temple, comme je l'ai déjà rappelé précédemment, à cause de la faute d'Avodah Zarah, de Znout, de Retzach, l'idolâtrie, l'impudicité, les mauvaises mœurs, et le meurtre. Deuxième temple, c'est infernal. La haine gratuite. Comment peut-on réparer de telles fautes? On voit que le Ben Ishraï nous rapporte dans Rav Pealim, sur un fameux shoot Rav Pealim, il nous rapporte Rav Yosef Chaim, grand rabbin d'Irak, à Bagdad, rapporte un enseignement extraordinaire. On dit, voilà, on nous enseigne que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté dans la grotte. Et que malgré cela, dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne dans le Zohar, dans la Hidra, qu'il n'a jamais manqué aucune séoudot, y compris durant Shabbat et les fêtes. Je dis, attends, excusez-nous, les Shabbat, il y a une obligation, quand même, d'avoir de pain, de faire bon signe. Il avait quoi? Il avait des figues, il avait des dates, il avait du lait. Il n'a pas pu faire les séoudotes comme il faut. Comment il a pu combler et dire qu'il a fait les séoudotes sans aucun manque? Parce que bien sûr, cas de force majeure, tu n'as pas de pain, tu fais la séouda sans pain à Shabbat. Bon, on peut estimer que c'est un cas de force majeure qui s'est acquitté de la mitzvah. Mais comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut affirmer qu'il n'a jamais manqué de quoi que ce soit à aucune séouda dans la grotte, ni pour Shabbat et les fêtes? Et qui les a faites sans aucun manque, al-pi al-acha, de l'élève jusqu'à taf. Attends, c'est pas mon secret. Et là, il nous enseigne une chose extraordinaire, Ben Israël. Il dit de là, on apprend que celui qui jeûne pas à Tisha B'Av à travers l'étude de la Torah, c'est comme si qu'il a fait sa réparation à Tisha B'Av. Malgré que, parce qu'il est malade et qu'il n'a pas jeûné, il devra quand même, malgré tout, jeûner un autre jour s'il peut. S'il ne pourra pas, le fait d'avoir étudié à Tisha B'Av, s'il ne pourra jamais, à cause de trop grands problèmes de santé, c'est la kavana. S'il ne pourra jamais, le fait d'avoir étudié le Shabbat, c'est comme si il a jeûné. Comment on l'apprend de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lorsqu'il a jeûné dans la grotte, même Shabbat et même jour de fête, il ne pouvait pas avoir des chalotes, il ne pouvait pas faire motzi. On voit que même lui, il nous dévoile que son étude était complète, que ses siudot étaient complètes, que sa mitzvah était complète. À travers quoi? À travers le fait qu'il s'asseyait, qu'il étudiait la Torah. Le fait que l'on désire s'améliorer et grandir en étude de Torah et se rapprocher de Dieu à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot nous remplit dans le ciel tel qu'il est rapporté dans ma Sefer Megillah et nous donne un tel mérite que Dieu dans le ciel considère que c'est comme si qu'on lui fait des sacrifices. Ça remplace les corbanotes du Beth Amikdash, ça les remplace, mais ça n'arrive pas à nous faire suffisamment grandir spirituellement pour comprendre et percevoir toute la grandeur des mitzvot et le voir de nos yeux, comme à l'époque du premier et deuxième temple. Voilà ce que j'engendre aujourd'hui, ce qu'engendre principalement le manque et l'absence de Beth Amikdash dans notre génération. Il faut que tous ensemble nous prions pour le repentir de tous nos corps religionnaires, de toute l'humanité, afin que le Beth Amikdash soit reconstruit très bientôt, définitivement, en Israël, à travers la paix avec toutes les nations, entre toutes les nations, autour d'Akadosh Baruch Hu, autour de la Shrina et autour de l'ordonnance divine. Amen, Kenny Hatson, qu'on ait le mérite de faire une teshuvah chez les mains, qu'on ait le mérite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qu'on ait le mérite d'arriver à comprendre toute la grandeur de la Torah et toute la grandeur des mitzvot, toute l'importance de chaque petite mitzvah, de chaque petite bracha, de chaque petite lettre que nous prononçons, chaque petite lettre que nous lisons lorsque nous étudions la Torah. Qu'on ait le mérite de voir la gloire de l'Éternel à travers notre étude et la grandeur de l'Éternel, la grandeur de la sainteté qui se répandra dans ce monde Bezrat Hashem très bientôt, comme le Rambam nous le rapporte au nom du livre des prophètes, qu'au moment où viendra Mashiach Bezrat Hashem, le savoir divin recouvrira ce monde tel l'océan recouvrant la terre. Amen, Kenny Ratzon. À très bientôt. Beth Amikdash.
Thank you.